Bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. C'est toujours un privilège puis une joie de pouvoir participer à la Sainte Convocation qui fait partie de l'Assemblée de sabbat comme la Bible nous montre. Aujourd'hui, dans le message, je vais vous parler d'une activité quotidienne, essentielle et vitale pour quelqu'un qui est appelé par Dieu à le servir maintenant en préparation du retour du Christ. Le titre de mon message, Se nourrir de la parole. Se nourrir de la parole. Matthieu 4, verset 4 dit ceci: L'homme ne vivra pas de pain seulement, ce sont les paroles du Christ, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors comprenez-vous que pour vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il faut d'abord connaître ce que la Bible dit, tout simplement. Et c'est pourquoi il nous faut chaque jour étudier la parole de Dieu pour l'approfondir, la connaître davantage, en vivre, c'est ce qu'il dit ici, pour la comprendre mieux. Et plus on la met en pratique, plus Dieu nous donne de la comprendre. C'est de la façon avec laquelle Dieu comprend. Dieu nous aide, Dieu nous montre le chemin. Et les paroles de Dieu, elles ont été mises en écrit dans la Bible. Et Dieu s'est arrangé, comme on a expliqué dans un autre sermon, pour que ces paroles parviennent jusqu'à nous, même ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament depuis des milliers d'années. Quand le Christ a enseigné à ses disciples comment prier, de quoi on peut parler à Dieu, un des éléments de sa prière, c'était demander à Dieu qu'il vous donne quotidiennement le pain quotidien. C'est vrai pour le pain physique. Mais oublions pas une chose, c'est vrai également sur le plan spirituel. Le pain spirituel duquel on doit se nourrir, c'est la parole de Dieu. Ce sont des informations précieuses qu'on ne peut pas trouver absolument ailleurs, à aucun endroit qui peut exister. Seule la Bible peut nous donner les informations pertinentes au plan de Dieu, à sa nature, à ce qui attend les êtres humains dans le futur. Il nous le montre par ses prophéties, de sorte que l'Église de Dieu peut annoncer d'avance les choses qui s'en viennent, parce que Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent. C'est pourquoi, pour connaître Dieu et développer graduellement son caractère, il nous faut connaître sa parole intimement, de façon personnelle, de façon régulière. Et on n'aura pas fini d'approfondir sa parole tant que le Christ ne sera pas revenu. Et même après, on comprendra sans doute d'autres dimensions qu'on n'a pas pu saisir avant. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Mais Dieu nous donne de comprendre ce qu'on a besoin de comprendre pour aller vers la vie éternelle et pour nous préparer au retour du Christ. Vous savez, dans notre ancienne organisation, là, il y a plusieurs personnes qui se sont contentées de réchauffer un siège à l'Assemblée. Et dans plusieurs cas, je sais, plusieurs n'étudiaient pas leur Bible réellement. Ils étaient là. Ils étaient contents d'entendre ce qu'ils entendaient, ne mettaient pas vraiment en pratique les choses et n'étudiaient pas vraiment la Bible. Et c'est une des raisons pour lesquelles un si grand nombre sont tombés quand l'apostasie a frappé l'Église dans l'histoire. Parce qu'ils n'étaient pas solidement ancrés sur le Christ, sur la parole de Dieu. Ça nous prend une certaine discipline pour le faire. C'est un choix. Il faut décider de le faire, puis ensuite de le faire régulièrement chaque jour. Et si on le fait, on apprend à connaître Dieu. Et on apprend à savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse et comment il veut qu'on vive. Dieu déclare par Jésus-Christ dans Luc 11, verset 28, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. » Ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Voyez-vous, il ne s'agit pas seulement de l'écouter ou de l'entendre ou de la lire de façon distraite. Il faut la garder. Ça veut dire quoi, la garder? La garder dans notre vie pour en vivre. Sans ça, ça n'a aucune valeur. C'est comme si je ne la connaissais pas. Je sais dans mon esprit intellectuellement, mais je ne le sais pas dans ma façon de vivre. Il faut la mettre en pratique, la parole de Dieu, dans la mise en pratique de ses lois, de ses commandements, en observant ses sabbats et ses fêtes. Et ce faisant, on développe la perspective de Dieu et on développe son caractère. Et ça ne peut pas se faire sans connaître la parole de Dieu. Ça ne peut pas se faire sans connaître la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains 10, verset 17. La foi, la vraie foi, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? de la parole de Dieu. Je reviens encore à ça. C'est pour ça qu'il faut que chaque jour, je me nourrisse de la parole de Dieu. Et même, je dois le faire personnellement encore, même après plus de 40 ans. Je dois continuer à le faire et je ne dois pas arrêter de le faire. Au contraire, ça m'amène à approfondir encore la parole de Dieu. Et c'est tellement encourageant parce que Dieu nous révèle d'autres choses. Et ça nous fortifie dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi de Dieu ou la foi de Christ qu'on reçoit, ce n'est pas notre foi, c'est la foi du Christ justement et elle nous est donnée par Dieu et à travers notre étude, nos prières et la mise en pratique des lois de Dieu. Et c'est accordé à ceux qui s'appliquent à se discipliner pour étudier sa parole et pour en vivre. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a dit à un moment donné à Timothée, dans 1 Timothée 4 et le verset 13. Timothée était loin de Paul à ce moment-là pour un certain temps. Paul lui a écrit et il lui dit ceci, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi, Timothée, à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Alors voyez-vous, il disait à un ministre de Dieu de l'époque, Paul lui disait, « Applique-toi à la lecture. » Donc, je dois continuer à lire la parole en tant que ministre, oui, mais en tant que membre de l'Église. Et tous les membres d'Église doivent le faire pour rester solides et voir leur foi augmenter. Ça doit être une priorité. Et je vais vous dire plus que ça. Ça fait partie de l'adoration du vrai Dieu. L'adoration du vrai Dieu, ce n'est pas une émotion dans le cœur en disant « j'ai donné mon cœur à Jésus » et ainsi de suite. Non, c'est de faire la volonté de Dieu. Le Christ l'a dit à plusieurs occasions. Pourquoi dites-vous que vous m'aimez, mais vous ne faites pas les choses que je vous demande de faire? C'est ça qui est l'essentiel. Et adorer Dieu, dans ce sens-là, c'est une démarche qui ne peut pas être séparée de l'étude de sa parole, qui ne peut pas se faire sans étudier sa parole, sans s'en nourrir régulièrement et sans la mettre en pratique. Sans ça, on se leurre et on n'est pas vraiment proche de Dieu et Dieu ne nous répond pas vraiment. Pour que Dieu nous réponde vraiment, il faut faire sa volonté. C'est ce qui est marqué dans la Bible aussi, même si on n'est pas parfait. Parce que quand on vient à l'Église, on est loin de savoir tout ce qu'il faut faire. Mais à mesure que Dieu nous montre les choses à faire, si on s'applique à les faire, Dieu nous donne la force et Dieu nous donne des bénédictions. Et là, Dieu répond à nos prières puis nous aide à aller plus loin. Pour vous montrer à quel point c'est important de lire la parole de Dieu, je vous ramène les paroles que le Christ a dit à plusieurs occasions. Vous pourrez aller voir vous-même. Plusieurs fois, le Christ a dit, « N'avez-vous pas lu? » N'avez-vous pas lu? Vous irez voir, par exemple, dans Marc 12, verset 10, Marc 12, verset 10 et le verset 26. Ailleurs aussi, vous pourrez prendre une concordance puis prendre le mot « lu », puis vous allez voir les autres endroits où le Christ a répété ces choses-là. Le Christ leur a dit, « N'avez-vous pas lu? » Ça veut dire qu'il leur reprochait de ne pas avoir lu les Écritures qui existaient à ce moment-là, c'est-à-dire l'Ancien Testament, parce qu'ils auraient dû comprendre des choses s'ils avaient lu les textes à l'époque. Le Christ indiquait par là que ceux qui disent être le peuple de Dieu doivent avoir lu la parole de Dieu. Voyez-vous, ça va ensemble. Si je dis que j'appartiens à Dieu, il faut que je lise sa parole, il faut que j'en vive. Sans ça, je n'appartiens pas vraiment à Dieu. Il faut que je l'ai lu, que je l'ai relu, que je l'ai réfléchi, que j'ai travaillé à la mettre en application. Ça veut dire l'intégrer dans ma vie. Devenir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le Christ en écrit. C'est la mentalité de Dieu. C'est sa façon de penser, c'est sa façon d'agir. Alors comprenez-vous que si je m'en nourris et si j'en vis, je deviens la parole de Dieu comme le Christ était la parole de Dieu. Ça, c'est le Christ en écrit. C'est la mentalité de Dieu, c'est sa façon de penser. Si nous voulons nous rendre au royaume, c'est-à-dire si nous voulons avoir la vie éternelle, c'est ça le royaume de Dieu, c'est naître dans la famille de Dieu en tant qu'être spirituel. Si nous voulons nous rendre jusqu'au royaume de Dieu et si nous voulons y entrer, nous devons étudier la parole de Dieu intensivement. Ce n'est pas quelque chose d'à côté dans notre vie. Il faut que ça devienne une priorité. Plus on comprend les choses quand Dieu nous appelle à l'Église, plus on se rend compte qu'il faut que ça devienne un élément majeur qui fait partie de chacune de nos journées. Et M. Meredith nous dit parfois, puis je le répète, cette petite citation-là, « Le temps qui nous est alloué pour notre développement spirituel est beaucoup plus court que nous pouvons le penser. » 1 Timothée, chapitre 3. On va voir un passage important ici. 2 Timothée, chapitre 3. Et nous allons lire le verset 16. Il est question ici des Écritures. Paul parle des Écritures, qui étaient l'Ancien Testament à ce moment-là, parce que le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit, « Toute Écriture est inspirée de Dieu. » Donc, si Dieu a inspiré les Écritures, c'est qu'il a mis dans les textes des choses qui sont bonnes pour nous, que nous avons besoin de savoir pour notre chemin spirituel afin de lui appartenir et afin de marcher vers la vie éternelle, vers la naissance dans son royaume. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Il parle des Écritures bibliques ici, bien sûr. Et utile pour quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça nous montre le chemin à suivre. C'est ça. C'est là qu'est notre source de compréhension de la vraie vie, d'une vie qui mène au bonheur, à la paix d'esprit et au bien-être de ceux qui nous entourent. Regardez le verset 15 avant, ce que Paul dit à Timothée. Il dit, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire les Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut. » J'arrête ici, parce que ce que Paul dit à Timothée ici, c'est que les saintes lettres ou les Écritures inspirées de Dieu, c'est ces Écritures-là qui nous donnent la sagesse vers le salut, vers la vie éternelle, pour voir notre vie passée pardonnée à cause du sacrifice de Christ, pour pouvoir passer par les eaux du baptême, recevoir le Saint-Esprit de Dieu par l'imposition des mains d'un de ses ministres, et ensuite de marcher en nouveauté de vie pour développer le caractère de Dieu. Ce sont les Saintes Écritures qui peuvent nous rendre sages à salut, c'est-à-dire vers le salut, vers la vie éternelle, que nous n'avons pas en tant qu'être humain. Ça doit nous être donné. La vie éternelle est un don de Dieu. Étant donné que l'Écriture est si importante pour notre salut, comprenez-vous qu'il nous faut lire l'Écriture, lire la Bible, travailler à la comprendre, la garder, la mettre en pratique, la relire, la noter. Moi, j'ai plein de couleurs puis d'annotations dans ma Bible ou de correspondances à mesure que je comprends des choses. Parce que là, ce livre-là devient vivant pour moi. Et quand j'y retourne, je retrouve des choses que j'ai comprises dans le passé que je peux ajouter à celles que Dieu me montre maintenant aussi encore. Alors, voyez-vous, ma Bible devient vraiment vivante dans ce sens-là. C'est un outil de travail dont je ne peux pas me séparer, que je dois utiliser chaque jour. Lire, relire. Je connais une dame dans l'Église qui finit pour la deuxième fois de refaire tout son cours de Bible. Elle l'a fait en anglais, après ça, elle l'a fait en français au complet, et là, elle entreprend d'autres sortes d'études, et chaque jour, elle fait des choses comme ça pour rester en contact avec la parole de Dieu. C'est formidable. Elle est encouragée, puis elle est solide dans la vérité à ce moment-là. Dans la Bible, c'est Dieu qui nous parle, à chacun de nous. Je vais vous le montrer tantôt. Individuellement et personnellement. Je vais vous montrer un petit passage qui l'indique clairement. Allez dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Regardez bien. Révélation de Jésus-Christ. Dès le début du livre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. Une révélation, c'est quelque chose qu'on fait connaître à un autre. Alors, si le Christ prend la peine de dire, « Voici, c'est la révélation que je vous donne », c'est parce qu'il y a un but en ce qui nous concerne, en ce qui concerne ceux à qui il est donné de pouvoir travailler pour comprendre la Bible et la mettre en application. Révélation de Jésus-Christ. Ça vient d'où? Que Dieu lui a donné, que le Père a donné à Jésus-Christ pour nous transmettre. Le Christ est venu sur la terre pour nous faire connaître le Père et pour transmettre le message de la divinité. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Pourquoi? Pour montrer à ses serviteurs. Ses serviteurs, c'est qui? C'est ceux qui travaillent à le servir, à l'aimer, parce qu'il dit que ceux qui m'aiment gardent mes commandements, que ceux qui s'appliquent à mettre en application ses commandements dans leur vie, y compris le sabbat, les fêtes et ainsi de suite. Que Dieu lui a donné pour montrer à ceux qui le servent, à ceux qui s'appliquent à le servir, pour leur montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Et c'est pour ça, comme j'ai donné dans les annonces tantôt, que je vous ai rappelé qu'on a enseigné dans l'Église de Dieu depuis des dizaines d'années ce que nous voyons se réaliser sous nos yeux maintenant dans les bouleversements climatiques, dans les bouleversements politiques et militaires à travers le monde. Parce que ça avait été écrit et Dieu révèle ces choses-là à ses serviteurs. Les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Et regardez le verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Voyez-vous, il ne s'agit pas juste de le savoir. Certaines personnes savent que le Christ revient très bientôt, que les signes sont là, évident, mais ne passent pas à l'action pour changer. C'est comme s'ils ne le savaient pas. Et quand les événements vont se bousculer, malheureusement, ils ne seront pas prêts. Ce sera comme les vierges folles de la parabole. Ils ne seront pas prêts. Ils ne seront pas capables de faire face à ce qui vient. Car le temps est proche. Et pour nous aujourd'hui, ce temps-là dont il est question, il est vraiment proche. Vous regarderez l'avertissement que le Christ précise à ce sujet-là dans Apocalypse 22, juste un peu plus loin. Le dernier chapitre de toute la Bible, voyez ce que le Christ dit à Jean. « Ne scelle point les paroles de la prophétie. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. » Pourquoi? Car le temps est proche. Le temps de l'accomplissement de tout ce qui est écrit là est proche. Il dit, ne ferme pas ce sens-là pour les serviteurs de Dieu. On a vu au début du chapitre que ça s'appliquait aux serviteurs de Dieu. Et laissez-moi vous faire peut-être réfléchir sur un point en particulier. Le temps qui nous est accordé personnellement, individuellement, pour croire spirituellement, pour pratiquer de mieux en mieux les lois de Dieu, ce temps-là a une durée limitée. Ce temps-là, il a une durée limitée. Et plus on approche de la fin, plus c'est vrai. Parce que ça peut être deux possibilités. Ou que je m'endorme, c'est-à-dire que je meurs avant que le Christ revienne, ou que je sois encore vivant au moment où le Christ va revenir d'ici quelques brèves années. Dans un cas comme dans l'autre, le temps est de plus en plus limité. Mon temps à moi aussi, le vôtre également. Ça me fait penser, nos enfants, quand ils étaient petits, je leur avais acheté un petit sablier. Vous avez déjà vu ça, ces petits jouets-là. Parfois, c'est pas un jouet, c'est pour calculer le temps aussi. Mais c'était deux petites boules en verre avec un petit tuyau entre les deux. Et on le tourne et le sable coule d'une réserve à l'autre. Et ça peut prendre 5 minutes ou 2 minutes où il y a un temps calculé. Là. Mais il y a un temps limité. Il n'y a pas plus dans le sablier que le temps qui est là. Et notre vie, c'est exactement pareil. Il n'y a pas plus dans ma vie que le temps qui me reste, et vous pareil. Et il n'y a pas plus dans notre vie d'ensemble que le temps qui reste d'ici au retour de Christ. Alors, comprenez-vous pourquoi je dois prendre au sérieux mon appel si je commence à comprendre les lois de Dieu, si je comprends sa voix, et si en plus j'ai été baptisé et je suis membre de son Église, le temps qui me reste est très important et je ne dois pas prendre à la légère l'appel qui m'a été adressé. Il faut que je me discipline pour étudier la Bible, me faire un programme. La Bible, c'est un guide de vie, mais c'est pas seulement ça. C'est un guide pour être heureux, parce que ça nous montre comment ne pas se faire mal et comment ne pas faire mal aux autres, comment faire du bien aux autres et comment être bien nous aussi. Et c'est un livre d'encouragement, c'est un livre de promesses de la part de Dieu qui nous dit les choses qui s'en viennent et quoi faire pour recevoir ces bénédictions. Vous savez, on ne peut plus simplement se permettre dans l'Église d'occuper une place. Un fauteuil, d'attendre nonchalamment, de laisser passer le temps. Cette époque-là, elle est révolue, elle est finie. Il faut être vraiment proche de Dieu et prêt à affronter les choses qui viennent, pour avoir la force nécessaire, la foi nécessaire pour passer à travers. La meilleure façon pour ça, pour étudier la Bible, c'est de déterminer, de choisir un temps chaque jour. Le meilleur temps où on est en meilleure condition. Souvent, c'est en débutant la journée pour prendre un temps précis, fixer un délai chaque jour pour retourner dans la parole de Dieu et faire une étude systématique. On peut aller chercher des outils pour s'aider aussi. On peut écouter des sermons. On peut prendre des brochures de l'Église. On peut prendre le cours de Bible, par exemple, et le faire régulièrement, ou le faire un bout de temps, puis ensuite intercaler par d'autres choses, ou prendre un livre de la Bible, aller du début à la fin, ensuite le livre suivant. Certaines personnes le font, comme la dame dont je vous ai parlé tantôt. Mais il faut déterminer un temps chaque jour pour étudier la parole de Dieu et la faire nôtre. Je vous donne trois exemples d'études de la parole de Dieu, de gens qui ont étudié la parole de Dieu et ce que ça l'a produit, les fruits que ça l'a apporté, les bénédictions que ça leur a apportées. Allez dans le livre d'Esdras, s'il vous plaît. Esdras, chapitre 7. Le contexte de ça ici, vous vous rappelez, Esdras avait été envoyé à Jérusalem pour rebâtir Jérusalem, rebâtir les murailles de Jérusalem et éventuellement pour que le temple soit rebâti. Mais regardez ce qui est dit ici au verset 10. « Car Esdras, ce serviteur de Dieu, avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. » Voyez-vous, cet homme-là, que Dieu avait chargé de rebâtir Jérusalem à ce moment-là, avait d'abord étudié la parole de Dieu et s'était appliqué à la mettre en pratique. Et regardez maintenant le verset 8 et 9. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois. Et regardez le dernier bout de la phrase. La bonne main de son Dieu était sur lui. C'est-à-dire que le Tout-Puissant le bénissait, l'aidait, le protégeait, bénissait ce qu'il entreprenait. Mais pourquoi? On le voit dans les versets que je viens de vous lire tout de suite après. Car Esdras, verset 10, avait appliqué son cœur à quoi? À étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Ça nous donne l'exemple à suivre. Voyez-vous, quelqu'un qui a pris à cœur d'étudier chaque jour les Écritures pour les comprendre, les mettre en pratique et pour servir autour. Alors donc, un, Esdras avait étudié, et deux, Esdras s'était appliqué à mettre en pratique ce qu'il voyait écrit dans la loi de Dieu. La loi, en passant, qui n'a jamais changé. Les 10 commandements de Dieu, ces fêtes, n'ont jamais changé et ils ne changeront jamais d'ailleurs. Certaines choses ont changé de l'Ancien Testament. Ça se comprend. Les sacrifices qu'on offrait à l'époque ont été abolis. Pourquoi? Parce que le sacrifice parfait est venu. L'agneau de Dieu est venu. Une fois qu'il a eu donné sa vie, il n'y avait plus besoin d'avoir de sacrifice pour représenter ce sacrifice total, futur, à venir. Alors, c'est pour ça qu'il y a certaines choses de l'Ancien Testament qui ont été arrêtées parce qu'elles n'avaient plus lieu d'être. Mais la base de tout, le fondement, c'est la loi de l'Éternel. Ce sont ses fêtes, ses lois. Et ça reste. Alors, Esdras avait étudié, il avait mis en pratique ce qu'il avait appris. Est-ce que vous voulez que la bonne main de l'Éternel soit avec vous? Moi, je le veux. Je le veux encore de plus en plus. Et je sais qu'avec les temps qui viennent, j'aurai besoin, et vous aurez besoin, que la bonne main du Tout-Puissant soit avec vous dans les temps qui viennent. On doit faire notre part pour ça. Si nous faisons ce que nous pouvons faire, ça, c'est notre possible, au mieux, alors Dieu va faire ce que nous ne pouvons pas faire, l'impossible. Moi, je ne peux pas faire l'impossible, mais c'est marqué qu'à Dieu, rien n'est impossible. Mais Dieu va travailler avec vous, Dieu va travailler avec moi. Et toutes ces expériences-là qu'on fait en cours de route avec Dieu, quand on le voit nous répondre, quand on le voit nous donner de comprendre sa parole, qu'est-ce que ça fait? Ça renforce notre foi. Et plus notre foi est forte, plus on est proche de lui. Et plus on se sent en confiance, plus on a la paix d'esprit dont la Bible parle. Maintenant, je vous donne un deuxième exemple de l'étude de la parole avec les fruits que ça porte. Allez dans le livre des Actes. Le livre des Actes, le chapitre 17. Pour vous donner le contexte ici, c'est que l'apôtre Paul avait été rejeté brutalement par les gens de la ville de Thessalonique. Et il s'est rendu dans une ville suivante où il a été mieux reçu par les gens lorsqu'il a annoncé la parole de Dieu. Acte 17 et le verset 10. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Ils l'ont fait partir de nuit de la ville dont je vous ai parlé parce qu'on voulait lui faire du mal. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Alors voyez-vous, Paul est allé dans la synagogue pour prêcher comme c'était son habitude. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, la ville d'où ils venaient, d'où ils s'étaient enfuis. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alors voyez-vous, ils étudiaient les Écritures chaque jour. Et c'est le thème de mon message, se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Eux le faisaient. Ça les a fortifiés. C'était positif comme approche. C'était pas pour contredire Paul, c'était pas pour s'opposer à Paul, mais c'était pour prouver par eux-mêmes ce qu'il y avait dans les Écritures. Ils avaient entendu l'explication de Paul, et ensuite ils allaient voir eux-mêmes dans les Écritures et ils disaient « Ouais, c'est ça qui est marqué. » Et là, leur foi était augmentée. Et c'est ce qu'on doit faire aussi. C'est ce qu'on fait lorsqu'on vient à l'Assemblée et qu'on prend des notes durant les sermons, qu'on revise nos notes après et qu'on approfondit les choses. Ça reconfirme. Et même quelques temps après, quand on revoit les mêmes choses ou les mêmes passages bibliques, ça renforce encore la chose qu'on a prouvée avant. Alors, ils n'ont pas simplement accepté ce que Paul leur disait, mais ils examinaient chaque jour les Écritures et de cette façon-là, ils se sont renforcés. Quels ont été les résultats de ça? Regardez au verset 12, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Plusieurs d'entre eux crurent. Dieu leur a accordé la foi parce qu'ils se sont mis à faire les choses comme Dieu voulait qu'ils les fassent. Dieu accorde son esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, 32. Alors, plusieurs d'entre eux ont cru, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On revient encore à la même chose que je vous expliquais tantôt au début. C'est pour ça qu'on a besoin chaque jour de regarder la Bible de proche, de l'examiner, pas juste de la lire comme un journal, prendre le temps de l'étudier, de la comprendre, de voir des liens avec d'autres choses qu'on a vues dans d'autres passages de la Bible, de se mettre des petites notes de référence et ainsi de suite. Même moi, je colore ma Bible un peu pour noter les choses principales qui m'aident à comprendre le plan de Dieu et ainsi de suite. Alors, ça a été un des résultats, mais ça n'a pas été le seul résultat. Revenez à 11, le verset 11. Un des résultats du fait qu'ils faisaient ça, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Alors, voyez-vous, Dieu a inspiré ici l'auteur des Actes de dire que ces gens-là, parce qu'ils faisaient ça, parce qu'ils étudiaient les Écritures chaque jour, qu'ils prouvaient les choses, qu'ils avaient un caractère noble. Dieu leur donne un qualificatif de noblesse. Très encourageant. C'est le deuxième exemple que je vous donne du fait qu'on doit étudier notre Bible chaque jour, l'approfondir, et que ça donne des résultats. Troisième exemple que je vais vous donner maintenant. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup dans la Bible. Il a écrit 14 livres. Vous savez de qui je veux parler, c'est l'apôtre Paul. Ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous montrer. Mais je vais vous montrer à quel point les Écritures, la Bible, pour Paul, la Bible qu'il y avait à l'époque, les écrits de l'Ancien Testament, à quel point c'était important pour Paul et à quel point ça doit l'être pour nous, de même que le Nouveau Testament qui a été ajouté, y compris les écrits de Paul. Je vais vous donner cet exemple-là. Allez dans 2 Timothée chapitre 4, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 4. Et là, vous allez voir quelqu'un, je parle de Paul, qui avait vraiment à cœur d'étudier sa Bible. Même lorsqu'il était rendu âgé, même lorsque ça faisait longtemps qu'il connaissait les Écritures, il voulait continuer à étudier sa parole. C'est jamais fini pour quelqu'un qui est à l'Église d'apprendre la parole de Dieu, de l'approfondir. Au moment où Paul écrit ce que je vais vous montrer dans 2 Timothée 4 ici, à ce moment-là, Paul était en prison. Il était déjà emprisonné et il savait que sa fin approchait. Il savait qu'il allait mourir peu de temps après ça. Alors, 2 Timothée 4, verset 6, Paul écrit ceci, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » On voit par cette phrase-là que Paul savait qu'il allait mourir peu de temps après. Il était en prison, comme je vous dis, à ce moment-là. Bon, regardez maintenant ce qu'il a demandé. Paul était en prison et il demande deux choses. Par après, on voit au verset 13. Il dit, « Quand tu viendras, Il a écrit à Timothée encore ici. Il dit, « Quand tu viendras, Timothée, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. » OK? Il dit, « Apporte mon manteau. J'ai laissé mon manteau là-bas. Apporte-le. » J'imagine que dans les prisons là-bas, il n'y avait pas chauffage central, il n'y avait pas confort absolu. Alors, Paul avait sûrement besoin d'avoir un manteau pour se réchauffer durant les nuits froides. « Apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. » Et les livres, surtout les parchemins. Ça, ça nous dit beaucoup, là, ici. Paul dit, apporte mon manteau et apporte les livres, surtout les parchemins. Et vous savez ce que c'était, ces parchemins-là? C'est que les textes de l'Ancien Testament étaient écrits sur les rouleaux, sur les parchemins. Il dit, apporte-moi ça, je veux avoir ça. Il était sur le point de mourir, ça faisait un certain nombre d'années qu'il était dans l'Église et ça faisait longtemps qu'il connaissait les textes. Pourtant, il demande d'avoir les parchemins, les Écritures. Du fond de sa cellule glaciale, en tant que prisonnier, Paul demande deux choses. Paul demande d'avoir son manteau pour réchauffer son corps, et il demande d'avoir les Écritures pour être capable de les étudier afin de réchauffer son cœur. D'être encore fortifié dans la foi pour être capable d'affronter les choses qui s'en venaient, parce qu'il savait que son départ était proche. Parce qu'il savait qu'il allait passer par des épreuves majeures et qu'il avait besoin à ce moment-là d'avoir toute la force de Dieu. Maintenant, de qui est-ce que je parle ici? Est-ce que je parle de quelqu'un qui connaissait les textes depuis 2-3 ans? Paul avait grandi en étudiant les Écritures de l'époque, en étudiant l'Ancien Testament. Il avait étudié au pied du rabbin le plus en vue de l'époque, Gamaliel à l'époque. Alors, Paul avait grandi dans l'étude des Saintes Lettres. Il les connaissait depuis qu'il était tout petit aussi. Même, il était un des ministres réputés dans la religion juive. Il connaissait très bien les lettres. Il ne connaissait pas le vrai Dieu avant d'avoir été appelé, mais il connaissait les Écritures. Donc, ce n'était pas nouveau pour lui. Paul aurait pu dire, « J'ai pas besoin de apporte mon manteau. Pas besoin d'apporter les parchemins depuis que je suis petit que j'ai lu. » Et surtout, depuis que Dieu m'a appelé, maintenant je comprends le sens profond de ce que ça veut dire, et je comprends maintenant le plan de Dieu, et je comprends mon rôle, donc laisse les parchemins en arrière, j'en ai pas besoin. Malgré toute son érudition, malgré toutes les expériences extraordinaires qu'il avait vécues, malgré les miracles que Dieu lui avait donné de faire, et malgré le fait qu'il savait qu'il accomplissait la volonté de Dieu et qu'il était proche de Dieu, il dit, apporte-moi ma Bible, j'en ai besoin. Il faut que je sois fortifié. Paul n'a pas dit, j'ai déjà lu ça, j'en ai pas besoin. Ou il n'a pas dit, ça fait longtemps que je suis dans l'Église, j'ai pas besoin de lire ma Bible. Et moi, je le dis aux plus anciens dans l'Église, ne faites pas l'erreur de dire, il y a longtemps que je suis dans l'Église, je n'ai plus autant besoin de lire ma Bible, j'ai tellement entendu ces versets-là nombre de fois, ou je les ai tellement vus nombre de fois, que j'ai moins besoin de les voir. C'est une grande erreur que de faire ça. Ne faites pas ça de grâce. Vous qui êtes dans l'Église depuis 20, 30, 40 ans et même davantage, j'en connais ici, ne faites pas ça. Il faut être solide jusqu'à la fin, comme Paul. D'ailleurs, si vous vous rappelez, moi j'ai connu personnellement très bien, et plusieurs d'entre vous aussi, M. Dibard Appartient, un évangéliste de longue date, qui est mort il y a quelques années, mais qui a été longtemps, longtemps ministre de Dieu. Jusqu'au moment de sa mort, M. Appartient a lu sa Bible, il a étudié sa Bible. Même chose que M. Armstrong a fait dans le passé. On ne doit pas se penser solide parce que ça fait longtemps qu'on est dans l'Église. Il faut continuer le combat. Il faut continuer à se nourrir chaque jour. Il ne faut pas être négligent, absolument pas. Notre croissance spirituelle, ça a un rapport direct avec la qualité de nos études bibliques. Non seulement ça, mais notre croissance spirituelle et le fait d'être capable de passer à travers des épreuves qui approchent, ça a un rapport direct avec le fait qu'on soit proche de Dieu ou non, avec le fait qu'on se nourrisse chaque jour de sa Bible ou non, qu'on le prie chaque jour ou non. Si on ne fait pas ça, on est en danger. Aussi simple que ça, je suis honnête avec vous, je vous dis tel quel. J'ai vu dans le passé des gens tomber de l'Église, après même un certain nombre d'années, parce qu'ils ne mettaient plus en pratique ces choses-là. Parce qu'il savait, il avait déjà entendu. Il faut considérer notre appel comme précieux et il faut le considérer comme tel jusqu'à la fin et entretenir la flamme, ne pas laisser les choses diminuer. Parce que moins on se nourrit physiquement, qu'est-ce qui arrive? Moins on est fort, moins on est résistant, Moi, on est capable de faire de choses. Et sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Moins je me nourris du Christ, de sa parole écrite, moins je comprends la perspective de Dieu et moins je suis capable de mettre en pratique les lois de Dieu. Avant de mourir, quand le Christ a prié son Père, lors de ce qu'on appelle sa dernière prière, on le voit dans Jean 17, verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Sanctifie-les » en parlant de ses appelés. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » C'est là qu'on trouve la vérité, pas ailleurs. La vérité concernant le but de la vie. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Quel est le plan de Dieu dans tout ça? Ta parole est la vérité. Et ce qui nous met à part du reste de l'humanité, pour l'instant, ils seront appelés plus tard, mais le petit troupeau que Dieu appelle maintenant, ce qui nous met à part, c'est justement la vérité. La connaissance de ce qui est différent de ce que les autres comprennent autour. Ils ne peuvent pas les comprendre parce que, un, ils ne sont pas appelés, et deux, ils ne veulent pas le mettre en pratique. Et quand on ne met pas en pratique les choses de Dieu, on ne comprend pas les choses de Dieu. Et on trouve bizarre ceux qui vivent selon ces choses-là. Parce que ce n'est pas dans notre champ de vision, pour ainsi dire. Si on n'étudie pas la vérité, qui est la parole de Dieu, on ne peut pas en retirer aucun bienfait. C'est sa parole qui nous met à part. Si nous nous contentons d'études bibliques de pauvre qualité, nous limitons notre développement spirituel et on risque même de perdre notre route. Et ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. On doit parfois faire ce que l'apôtre Paul dit. Pas juste parfois. On doit plutôt faire ce que l'apôtre Paul dit. Dans Philippiens 3, verset 14. Qu'est-ce que Paul dit? « Je cours vers le but. » Pour le remporter, pour remporter le prix de la vocation céleste. Mais vous, ce n'est pas une attitude négligente en disant « j'attends que le Christ revienne ». Paul dit « non, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste ». La vocation céleste, c'est notre appel. Quand Dieu nous donne de commencer à comprendre les Écritures, on a le choix ou de les mettre en pratique ou pas. Si je ne les mets pas en pratique, je ne comprends pas plus. Je ne vais pas plus loin. Mais si je les mets en pratique, Dieu me donne de comprendre un peu plus, et là, je peux avancer. Et plus je comprends ça, plus je veux arriver au but. C'est ce que Paul dit. Il dit, je cours parce que je veux arriver au but. C'est fondamental. Notre propre vie en dépend. Ce n'est pas des choses banales que je vous dis. Il y a ici seulement deux possibilités. Ou bien nous sommes en train de nous diriger vers la vie éternelle, ou bien nous sommes en train de nous diriger vers la non-existence éternelle. Ou vers la mort éternelle. C'est un ou l'autre. Et le choix nous appartient. Et Dieu ne fera pas interférence à notre propre libre arbitre, à notre liberté de choisir. Dieu nous a donné la liberté de choisir et il la respecte. Et il la respecte. C'est à nous. C'est pour ça que je dis, il nous faut faire notre part. On peut améliorer nos études bibliques. Il faut faire des choses. Une des choses pour améliorer nos études bibliques, c'est la chose de base, je pense que tout le monde la comprend et la met en pratique, et il faut la mettre en pratique, c'est d'assister chaque sabbat aux assemblées de l'Église, parce que la Bible dit de ne pas abandonner notre sainte convocation. Et la sainte convocation fait partie du jour du sabbat, quand vous regardez dans les textes. Il doit y avoir une sainte convocation où il y a de l'enseignement qui est donné. Pourquoi? Pour fortifier le peuple de Dieu, pour que sa foi augmente, pour qu'il soit plus solide dans les voies de Dieu. Mais il faut non seulement observer le sabbat, non seulement observer les fêtes, mais observer les saintes convocations qui sont faites, pour être avec les frères et les sœurs aussi, parce qu'il y a plusieurs choses qui s'accomplissent à travers ça. Vous le savez, quand on se rencontre le jour du sabbat, lors de l'assemblée, on s'encourage les uns les autres. Et si quelqu'un est un petit peu triste, on l'entoure, puis on le console. Et si on peut s'aider, on s'aide. Et on a information sur les besoins les uns des autres, pour prier les uns pour les autres, dans la semaine aussi. Alors, il y a toute cette dynamique-là qui se passe pour que le peuple de Dieu soit fortifié. Alors, non seulement en venant à l'Assemblée, on approfondit la parole de Dieu et on l'apprend, mais on s'approche des autres. Et c'est d'autant plus important que nous voyons approcher le jour, comme c'est écrit. C'est marqué dans la Bible, « N'abandonnez pas votre assemblée, d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Quel jour? Le jour du retour de Christ, le jour du temps de la fin. Il y a des temps dangereux qui approchent, on le sait, on le voit. Et il va falloir absolument être plus proche les uns des autres en tant que peuple de Dieu. Et bien sûr, être plus proche de Dieu aussi. Et pour ça, il faut mettre en place les moyens d'améliorer notre étude biblique, qui est un des contacts qu'on peut avoir avec Dieu, en plus des prières et en plus du jeûne de façon régulière. Et pour y arriver, une bonne façon, c'est de déterminer, comme je mentionnais tantôt, un temps chaque jour, le meilleur temps qui vous convient, un temps suffisamment long pour faire vraiment une étude, trouver une place pour être tranquille, pour être capable de faire une étude comme ça, et ensuite de vérifier, c'est-à-dire de diversifier les choses pour qu'on en soit encouragé. Je me rappelle, il y a un ministre qui disait, « Ceux qui utilisent leur Bible peu ne sont pas beaucoup mieux que ceux qui ne se servent pas du tout de leur Bible. » Ça m'avait frappé, puis je l'ai noté. Il dit, « Ceux qui utilisent peu leur Bible ne sont pas différents de ceux qui ne l'utilisent pas. » Parce que c'est un demi, là. C'est pas comme Paul qui dit, « Je cours vers le but, je fais pas les choses à moitié. Si j'ai des études de Bible à faire, je les fais comme il faut pour en tirer le maximum du profit. » Si vous n'étudiez pas la Bible, c'est comme si vous n'aviez pas de Bible. Ça va un petit peu plus loin. Si vous n'étudiez pas la Bible, c'est comme si vous n'aviez pas de Bible. On oublie tout le reste. Il y a des petits outils maintenant, je vais un petit peu plus loin en continuant le sermon, pour nous aider dans nos études bibliques. Il y a des petits outils qu'on peut utiliser. Quand on a lu la Bible, on peut repartir ensuite, après l'étude qu'on a faite, par exemple le matin, faire notre journée, mais garder, par exemple, un point qui nous a frappé dans l'étude qu'on a faite et se le remémorer durant le jour. Voir comment je peux l'appliquer dans ma vie, ce point-là. Comment je peux en parler à Dieu dans ma prière, lorsque je vais lui parler. Ça devient vivant, puis ça nous habite, ça nous accompagne tout au long de la journée. Ça peut être une façon. On appelle ça la méditation. La méditation, c'est pas de s'asseoir sur un rocher, les bras, je sais pas comment, en faisant des bruits de voix, non. C'est de réfléchir. Méditer, c'est réfléchir. Et méditer sur la parole de Dieu, c'est réfléchir sur ce qu'on a lu le matin, le garder avec nous durant le jour. C'est une des façons. Une autre façon, et je vais la développer un petit peu celle-là, c'est la mémorisation de certains petits passages dans la Bible. Et vous allez voir l'effet que ça a. Moi, je l'ai vécu dernièrement, ça m'a vraiment frappé. Je vais vous en parler dans quelques minutes. C'est de mémoriser certains versets, certains passages clés qui nous servent tôt ou tard. Ça devient une base qui est facile de se rappeler parce qu'on les a mémorisés. Mémoriser, on peut les apprendre par cœur, puis les répéter jusqu'à temps qu'on les apprenne. Ou moi, ce que je fais des fois, je vais écrire le verset que je veux apprendre par cœur, je vais l'écrire plusieurs fois. Puis 2-3 jours après, je vais le réécrire encore plusieurs fois. Puis à un moment donné, ça devient automatique. Je peux, sans avoir besoin de me référer, le dire par cœur. Là, il est là, il est enregistré. Voyez-vous? Et si j'en ai besoin, je peux m'y référer. C'est comme si j'étais en train de lire la parole de Dieu, quand je le rappelle à mon souvenir, parce que j'en ai besoin dans telle ou telle situation. Lorsqu'une écriture comme ça est emmagasinée dans votre esprit, elle devient alors disponible pour que le Saint-Esprit de Dieu, pour que la puissance de Dieu vous rappelle cette écriture-là et l'attire à votre attention lorsque vous êtes dans une situation où vous avez besoin de cet encouragement-là. Comprenez-vous? C'est qu'à ce moment-là, même si vous n'avez pas votre Bible en papier avec vous, c'est que dans telle circonstance, le verset va vous revenir à l'esprit et ça va vous aider à passer à travers tel problème ou telle situation. Et le Saint-Esprit de Dieu, Dieu se sert de sa puissance pour nous rappeler ça parce qu'on a pris la peine de mettre ça dans notre esprit et de vouloir le garder comme quelque chose de précieux. Et vous allez voir, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Dernièrement, j'ai vécu des expériences personnelles à ce sujet-là. C'est rare que je fais ça, mais je vous en parle. Je vous ouvre mon cœur, pour ainsi dire, là-dessus. Puis si ça peut aider quelques-uns, tant mieux. Vous savez, on passe tous des situations difficiles. Et les ministres de Dieu, la même chose. On est d'abord des membres de l'Église. Puis on a les mêmes combats que les autres à faire. On a les mêmes défis. Et parfois plus, parce qu'on doit avoir soin du troupeau aussi, comme Paul disait. Puis on doit prendre sur nos épaules aussi les problèmes des autres, puis essayer de les aider à passer à travers et tout ça. Donc, parfois, il y a des situations difficiles où on ne voit pas les solutions, comme ça arrive à tous les membres d'Église. Sentiment d'impuissance, ça c'est une réalité humaine. D'ailleurs, il faut le reconnaître qu'on est impuissant parce que c'est seulement par la force de Dieu qu'on peut accomplir quelque chose. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je me rappelle du passage en anglais dans Zacharie, quand Dieu dit « Not by might ». pas par ta force, mais par ma force. C'est ça qui est marqué dans la Bible. Ça, c'est un verset, je ne l'ai pas appris par cœur, mais je ne l'ai pas appris mot à mot, mais j'en sais le sens. Et je le rappelle à mon esprit quand je me trouve devant une situation où il n'y a pas d'issue. Je dis à Dieu, c'est pas par ma force, je le sais, c'est par ta force que je vais pouvoir sortir de cette situation-là. Merci. Je ne sais pas comment, mais toi, tu le sais. Je te demande de m'aider à faire ta volonté pour que tu me répondes et que tu me donnes de passer à travers la situation. Alors, dernièrement, il y avait ces creux de vagues-là et des problèmes, des défis difficiles. Qu'est-ce que j'ai fait? La seule chose, la première chose qu'on doit faire, comme dans toute chose, à genoux, et demander à Dieu, prier Dieu. D'abord, demander à Dieu de nous aider à faire sa volonté, parce que c'est d'abord ça qu'on doit faire. Et après, dire, Dieu, j'ai tel problème, viens m'aider, aide-moi pour ce problème-là. J'ai supplié Dieu, demandé, supplié. Il a fallu que je prie plusieurs fois là-dessus, demander de m'aider, demander de m'encourager. Et là, j'ai fait ce qu'on doit faire chaque jour. J'ai ouvert ma Bible, j'ai fait mon étude biblique. Devinez quoi? Il m'a amené sur un passage qui m'a, électrisé, parce que là, c'était ma réponse. J'ai eu la réponse, l'encouragement dont j'avais besoin. Dieu m'a guidé vers un passage qui m'a vraiment réconforté et qui a fait toute la différence. Et depuis ce temps-là, je me suis appliqué à l'apprendre. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Là, je sais juste ce bout-là par cœur. Je le répète régulièrement. Je suis en train d'apprendre le restant. J'ai commencé à l'écrire. Je vais écrire le reste un peu plus loin, parce que ça dit, il m'a délivré de toutes mes détresses, et ainsi de suite, à suite. Alors, moi, ça m'a frappé quand j'ai lu ça. Allons-y, vous allez voir. Je suis en train de le mémoriser, comme je vous dis. Psaume 116. Psaume 116. Et pour moi, ça avait encore là une importance symbolique encore plus grande, parce que la route 116, c'est la route qui mène sur notre ferme de famille. Alors, pour moi, c'est route 116. Ça, c'est juste humain, là. Mais ça m'a réjoui en même temps. Regardez le psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Voyez-vous, ce n'est pas un Dieu qui ne veut pas m'écouter. Il entend ma voix, mes supplications. Il sait ce que j'ai à vivre, les difficultés que j'ai à rencontrer. Il s'agit que je me confie à lui et que je lui demande de m'aider à faire sa volonté. Et il va faire la suite des choses. Ce qui est impossible à moi, lui, ce n'est pas impossible. C'est le Dieu de l'impossible. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Et parfois, on est en proie à la détresse, à la douleur. On se demande ce qui va arriver. On n'a pas de moyen de régler une situation. On est un peu découragé. On est dans un creux de vague. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Et j'étais en proie à la détresse. Il est miséricordieux, plein de compassion. Verset 6, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Et quand on a des moments de creux de vague comme ça, si on se tourne vers Dieu avec l'attitude de vouloir vraiment faire sa volonté, pas jouer de jeu avec lui, là, vraiment faire sa volonté en toute chose, même si on n'est pas parfait, mais qu'on est en route, Dieu nous répond. Et je peux avoir l'assurance que Dieu entend mes prières, entend ma voix, entend mes supplications. Et regardez ce qu'il me dit après, au verset 7. « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Car l'Éternel t'a fait du bien. Comprenez-vous que quand je vais avoir encore d'autres grands défis de la nature que j'ai eu dernièrement, quand Dieu m'a montré ce superbe verset d'encouragement, je vais me le redire encore. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications, car il a penché vers moi son oreille et il m'a sorti de ma détresse. » Formidable. Voyez-vous ce que ça fait? Mémoriser certains versets pour les utiliser de mémoire durant des situations précises, ça fait toute la différence. Il y a plusieurs autres versets, peut-être que vous savez déjà, que vous utilisez peut-être. Je vois des gens qui ont un sourire et je les connais. Je sais qu'ils en connaissent des versets par cœur et qu'ils les font venir à leur esprit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est mettre ses lois en pratique. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est une autre écriture qu'on peut apprendre par cœur et qu'on peut se remémorer quand on a des situations difficiles. Toute chose concourt au bien même si ça semble une situation horrible au point de départ. Peut-être que Dieu est en train de nous montrer quelque chose à travers ça, mais il veut qu'on en sorte. Toute chose concourt au bien. De ceux qui aiment Dieu, il faut que j'aime Dieu, par exemple, il faut que je m'applique à vivre selon ses lois et qui sont appelés selon son dessein. Voyez-vous, c'est une écriture qu'on peut apprendre par cœur puis se la rappeler. Quand le Christ a dit, ça je la trouve superbe, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est un autre qu'on peut se rappeler par cœur. Quand on se sent seul, isolé face à un problème, on peut dire, le Christ a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ça devient une force pour nous. Psaume 37, verset 25. Parfois, certaines personnes sont inquiètes sur le plan financier. « Si je fais ma part, si je m'efforce de faire un bon travail, si je compte sur Dieu, si je paie mes dîmes lorsque j'ai un salaire et ainsi de suite, je n'ai pas à craindre les situations, les circonstances. Je peux avoir des hauts et des bas. Mais regardez ce que Dieu dit. Je n'ai point vu, Dieu dit ça par la bouche de David, psaume 37, verset 25, je n'ai point vu le juste abandonné. Ça rejoint l'autre verset que je vous ai dit. Ni sa postérité mendiant son pain. Donc, même dans les temps difficiles, David, inspiré par Dieu, a dit, ceux qui font la volonté de Dieu auront la protection de Dieu, même dans les situations difficiles. Et ça explique pourquoi David a dit à un moment donné, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur. Je la mets en dedans de moi, ta parole. J'essaie de m'en rappeler, même si ce n'est pas mot à mot, là, au moins l'idée, pour me la rappeler dans différentes circonstances et demander à Dieu son intervention ou le remercier. S'il dit « Je serre ta parole dans mon cœur », c'est que je l'ai lu d'abord, que j'ai tenté de m'en rappeler et que je l'ai gardé dans mon cœur. Autrement dit, je n'ai pas mis la parole de Dieu sur une tablette de ma bibliothèque. J'ai pris le livre, je l'ai étudié chaque jour. On peut, je reviens à ça, on peut mémoriser un verset en le répétant mot à mot. On a du temps, on s'en va en auto ou quoi que ce soit, on peut répéter le verset pour vraiment que ça imprime. Ou on peut l'écrire, le répéter plusieurs fois. Je suis en train de faire ça avec les commandements aussi. J'écris les commandements pour m'en rappeler, être capable de m'en rappeler par cœur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voyez-vous, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Alors, quand je rappelle à Dieu, dans mes paroles, un passage que j'ai mémorisé quand j'arrive devant une situation, à ce moment-là, il y a une puissance dans la parole de Dieu qui m'aide, et Dieu m'aide aussi directement. Et on peut l'utiliser avec compétence lorsqu'on l'a lu, lorsqu'on l'a étudié, lorsqu'on l'a relu, qu'on l'a approfondi. Lorsqu'un verset nous revient à l'esprit dans une circonstance particulière, ça peut faire toute la différence dans le résultat, par exemple, d'une bataille spirituelle aussi. Et on a tous des combats spirituels à mener pour ne pas retomber dans nos fautes. On a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Et là, on peut se rappeler un petit passage qui est écrit dans le Nouveau Testament. « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Voyez-vous, ou si j'arrive devant une épreuve, ou si j'arrive devant une tentation, me rappeler un des versets qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, avec la tentation, va vous donner le moyen d'en sortir. » Alors, si j'arrive devant une tentation, j'ai un combat à mener, je peux dire à Dieu « Écoute, tu as dit que tu ne permettrais pas d'avoir des choses au-delà de nos forces. Aide-moi à avoir le moyen d'en sortir et aide-moi à vouloir en sortir. » Voyez-vous? Ou bien il y a d'autres versets qui vont dire « Résistez au diable. » Et il fuira loin de vous. Juste ce petit bout-là, des fois, ça m'a servi, moi. Résister au diable. Si je dis non à une tentation, si je me détourne, si je change de place, change d'amis, s'il faut, change de... Qu'est-ce qu'il faut changer pour ne pas tomber? Il dit, résister au diable et il fuira loin de vous. C'est une promesse encore que Dieu fait. Alors, à ce moment-là, vous profitez d'une force additionnelle quand un verset précis comme ça peut vous revenir à l'esprit. Pourquoi? Comme j'ai expliqué un peu, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Il y a une puissance inhérente dans la parole de Dieu. Ce n'est pas comme un livre d'histoire, ce n'est pas comme un roman, c'est comme d'autres choses. Dieu a mis sa puissance dans la parole de Dieu. Allez à Proverbe 22, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 22. Mémorisez des passages clés et se les répéter, ça augmente notre foi. Proverbe 22, verset 17 à 19. Prête l'oreille. C'est ce que Dieu nous dit. Prête l'oreille. Écoute les sermons. Écoute la Bible écrite en la lisant. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Et ce sont des paroles des sages, des serviteurs que Dieu a inspirés pour écrire ces paroles-là. Écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à la science, la vraie science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Avez-vous déjà remarqué ce petit passage-là? Il est bon que tu les gardes, ces paroles-là qui sont écrites, au-dedans de toi. Donc, essaie de t'en souvenir pour les mettre en pratique. Il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, que tu sois capable de répondre à d'autres qui posent des questions à partir de là, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, parce que les paroles de sagesse viennent de lui. Et regardez ce qu'il dit après. « Je veux t'instruire aujourd'hui. » Oui, toi. Je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. C'est intéressant de voir comment Dieu phrase les choses, présente les choses. Ça devient très personnel, je vous l'ai dit tantôt. Notre étude biblique, c'est quelque chose de personnel. C'est un rapport direct avec Dieu. Et si vous le faites de façon fidèle, il va vous répondre et il va intervenir pour que ce lien-là se développe avec lui. Gardez les paroles de Dieu au-dedans de nous. L'étude de la parole et la mémorisation nous affermit dans la foi et dans la loi de Dieu. C'est pourquoi David a dit dans Psaume 119, verset 97, Psaume 119, verset 97, « Combien j'aime ta loi! » Ouais, j'arrête. Pour que David dise « Combien j'aime ta loi! » fallait qu'il la lise, fallait qu'il la connaisse. « Combien j'aime ta loi! » Et plus je la lis, plus je vois l'implication de ces lois dans la vie de tout le monde, plus j'admire ces lois-là. Quand Dieu dit de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas tuer, on sait que c'est ce qui va être appliqué dans le monde à venir après le retour de Christ, et on sait comment de bien le fait d'appliquer ces lois-là apporte. Plus je les comprends dans leur dimension, plus je l'aime. Alors, combien j'aime ta loi, c'est ce que David disait. Donc, il fallait qu'il la lise. Elle est, cette loi-là, tout le jour, l'objet de ma méditation. Alors, il l'apportait, pour ainsi dire, avec lui, dans ses pensées, dans les grandes lignes ou mot à mot, mais il pensait à la loi de Dieu, il la mettait en application. Maintenant, je vous donne un exemple rapidement, en terminant, dans le Nouveau Testament, de quelqu'un qui connaissait les Écritures, qui les avait apprises, lues, relues, approfondies, vérifiées. C'est l'apôtre Pierre. Première Pentecôte du Nouveau Testament. Vous irez voir dans Actes 2, versets 14 à 35. Je ne lirai pas le passage, mais vous pourrez le lire. Lors de la première Pentecôte, l'apôtre Pierre a fait un sermon éclatant. Mais vous allez voir que la plus grande partie de ce qu'il a dit, ce sont des citations de l'Ancien Testament, des Écritures qui existaient à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être capable de faire un discours comme ça, Pierre les avait lus. Pierre avait lu ces Écritures-là, avait relu, avait intégré ces choses-là, les avait apprises. Et il a été capable d'en parler comme ça le jour de la Pentecôte. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. C'est l'épée de l'Esprit. Et il faut que cette épée soit disponible en nous, dans notre esprit, dans notre mémoire. Même si certains d'entre nous peuvent dire « j'ai pas une bonne mémoire ». Hein? J'ai pas une bonne mémoire, j'ai de la difficulté. Je vois quelqu'un qui sourit ici, qui est une candidate au manque de mémoire. C'est pas grave. Parce que, écoutez, ce qui compte, c'est que ce qu'on peut faire, on n'est pas tenu à l'impossible. Il faut s'appliquer à faire ce qu'on peut faire dans la mesure du possible. Je vous ai dit tantôt, Dieu va faire le reste. Quand vous aurez besoin de vous rappeler certaines Écritures, même si vous n'êtes pas capable de le faire de façon systématique, là, quand vous voulez vous rappeler certaines choses, quand une situation difficile va arriver, parce que vous l'avez appris, parce que vous l'avez revu, parce que vous l'avez relu, Dieu va vous la ramener à l'Esprit. C'est marqué dans la Bible que l'Esprit va vous conduire dans la vérité. Et l'Esprit peut nous ramener dans la vérité qu'on a apprise également, même si on n'a pas une très grande mémoire. Il faut faire l'effort quand même de mettre ça ensemble. Et ça fait toute la différence. Et je vous dis que c'est vrai, surtout dans les temps difficiles qui approchent. Si vous étudiez chaque jour votre Bible, une bonne période de temps, si vous vous consacrez à ça, chaque jour, fidèlement, bravo, et je sais que ça plaît à Dieu. Si vous ne le faites pas, totalement, si vous le faites en partie, c'est bien, mais changez, allez de l'avant. Et si vous ne le faites vraiment pas, moi je vous dis une chose, comme j'ai entendu de d'autres ministres, réveillez-vous, parce que le temps est court. Réveillez-vous, parce que vous ne pourrez pas, une fois rendu, avoir ce que vous n'avez pas acquis. Quand les temps seront plus difficiles et quand vous aurez besoin d'avoir toutes les armes pour être capable de faire face à ce qui va venir. Mais si vous avez étudié votre Bible chaque jour, si vous avez prié Dieu chaque jour, jeûné régulièrement, si vous vous êtes appliqué à faire sa volonté, Dieu va vous donner ce qu'il faut pour être capable de passer à travers. Si nous voulons nous diriger vers la vie éternelle, on n'a pas la vie éternelle en tant qu'être humain, mais Dieu veut nous la donner, veut qu'on naisse un jour dans sa famille. Si on veut se diriger vers la vie éternelle par l'Esprit de Dieu, il faut se nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Le Christ a dit dans Jean 6, verset 63, et je termine là-dessus. Les paroles que je vous ai dites, c'est le Christ qui parle. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles sont puissance de Dieu et elles sont le chemin de la vie éternelle.